les jardinières.
Ce matin, on vous propose de porter un regard un peu différent sur la végétation qui nous entoure. Les jardinières sortent des sentiers battus. Avec vous, Mylène, bonjour.
Bonjour Noélie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Pour nous guider dans la découverte des plantes sauvages, on reçoit aujourd'hui Muriel Janara. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes permacultrice et vous animez des ateliers de découverte des plantes sauvages à Montenolles. C'est votre première chez les jardinières. Soyez la bienvenue et merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'accueillir.
On est ensemble jusqu'à 8h. Ce matin, on va justement parler de plantes, ces plantes qu'on croise tous les jours sans forcément les voir.
7h, 8h, les jardinières.
Alors Muriel, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un peu connaissance. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux plantes sauvages ?
Ben, je crois que c'est une vieille histoire entre les plantes sauvages et moi, parce que déjà quand j'étais petite, j'ai des souvenirs où, par exemple, je m'asseyais sur un tas de cailloux où il y avait des tussilages et moi, je nettoyais ces feuilles qui avaient un petit duvet blanc. Il y avait aussi le bon Henri, le kénopode bon Henri. Je me souviens très bien d'avoir touché ces feuilles où il y a ces petits grains dessous, un peu comme des grains de sable. Et quand j'ai demandé à Couplan à quoi ressemblait le bon Henri, il m'a expliqué ça et j'ai dit oui, je sais laquelle c'est. Et je donnais à mes poupées du rumex. Ensuite, je donnais des graines de rumex à mes poupées, je faisais de la bouillie. Et puis ma maman, qui avait un grand jardin, elle faisait aussi des sirops de sureau, elle faisait de la soupe d'ortie, on cueillait du tilleul. Et puis quand je suis arrivée dans la maison où j'habite maintenant, le grand-père qui était un féru de plantes sauvages et médicinales, moi j'ai retrouvé un vieux bouquin de lui et j'ai commencé surtout là avec les plantes médicinales. Et puis ensuite, il y a François Couplan qui venait dans le Clos du Doubs. Et puis c'est au début des années 2000 où je me suis vraiment plongée avec ces plantes comestibles, vraiment ces plantes qu'on pouvait manger avec François Couplan là, qui venait dans le Clos du Doubs.
Merci beaucoup Muriel. Dans quelques instants, on partira sur le terrain. Nous vous avons rencontré lundi pour une petite balade découverte autour de chez vous. On vous y emmène après une petite parenthèse musicale.
Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Muriel Janara, animatrice d'ateliers de découverte de plantes sauvages. Et jusqu'à 8h, on vous dévoile une petite partie de ce monde végétal.
Et avant de nous concentrer sur quatre plantes sauvages en particulier, on vous propose de partir en balade avec Muriel. Vous nous avez accueillis chez vous à Montenolles en début de semaine. À cette occasion, vous nous avez partagé quelques-uns de vos coups d'œil sur la nature autour de vous.
Qu'on se trouve ici dans une bordure, ça veut dire dans un entre-deux. On est entre deux mondes et c'est là où il y a le plus de choses. Parce que je peux laisser aller, on est entre une zone forêt, une zone jardin. Donc il y a un peu d'ombre, un peu d'une partie plutôt ensoleillée. Et c'est là qu'on va trouver le plus de choses. Donc par exemple ici, moi je vois la mauve. C'est une plante que moi je laisse comme ça un peu se répandre où elle veut. Où je peux cueillir les fleurs qui sont très belles et aussi les feuilles. Puis, elles ont du mucilage, ça veut dire qu'elles sont adoucissantes. Donc elles peuvent aider à adoucir. Ça peut être un estomac qui est un peu brûlant, ça peut être une gorge qui est irritée.
Quand vous partez faire vos cueillettes en balade, vous savez exactement où vous dirigez. J'imagine qu'il y a des plantes qui vont s'épanouir dans des milieux un peu plus humides, d'autres plus secs.
Je pense que c'est un peu comme les champignonneurs qui savent où trouver les morilles parce qu'ils ont l'œil. Ça se travaille, ça s'affûte et puis avec le temps, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va trouver où. Par exemple, la petite pimprenelle, on va la trouver plutôt dans un lieu qui est bien ensoleillé.
Alors comme ça, c'est un peu compliqué, j'imagine, de mettre un chiffre dessus, mais vous diriez qu'il y a combien de plantes qu'on pourrait utiliser?
Il y a quelques temps en arrière, je suis sortie autour de la maison, donc il n'y avait pas grand-chose en mars, c'est nettement moins luxuriant que maintenant. Et j'ai cueilli 13 plantes différentes juste pour faire des salades. Donc ici, j'estime à 50, 60.
On pourrait faire un repas top chef de qualité avec tout ce qu'on a autour de la maison.
Oui, c'est souvent ce qui étonne les gens, c'est qu'ils pensent qu'on va broutiller. Alors bien sûr, ça se travaille, ça se met dans un plat, mais il n'y a pas que des plantes sauvages, on va mettre d'autres choses.
Et puis pour les personnes qui ont envie d'aller se balader, qui ont envie de cueillir quelques plantes, mais qui n'ont pas non plus envie de passer des heures et des heures à tout cueillir et à tout cuisiner, est-ce qu'il y a une, deux ou trois plantes que vous conseillerez de cueillir?
J'ai une fois dû faire une une soupe pour 200 personnes. Mais par exemple, là, j'avais mis du cirse, de la berce, de l'égopode. Après, ça prend du temps, hein. C'est un peu comme les feuilles d'épinards. Mais en même temps, elles sont tellement nutritives et elles ont tellement de bonnes choses que ça vaut la peine de les cueillir.
Ce serait quoi votre top 5 des plantes sauvages que vous utilisez le plus pour vos repas?
J'utilise le plus forcément ce que j'ai ici autour de la maison. Alors, ben, moi, je vais mettre l'ortie. Je trouve que c'est une grande dame, c'est pas pour rien qu'elle pique. Hein. Voilà. Je vais prendre les gopodes parce que j'en ai pas mal. Je vais prendre un peu des gaillets, pissenlit, de la mauve. Après, il y a des jolies petites feuilles pour la salade. Ça peut être aussi des feuilles de coquelicot. Il y a le plantain aussi. Alors, ça, c'est vraiment pour les grandes basiques qu'on trouve en grande quantité.
Merci Muriel pour cette balade. Est-ce que vous avez encore un petit conseil à donner à celles et à ceux qui aimeraient se lancer dans l'observation ou la cueillette?
Alors, je dirais déjà avoir du respect pour l'endroit où on se trouve, où on cueille. Observer déjà, c'est bien. Et quand on cueille, en principe, il y a un conseil qu'on donne, c'est qu'on ne devrait pas voir qu'on a passé par là. Donc, on cueille juste ce qu'on a besoin et on ne piétine pas, on ne détruit pas l'écosystème dans lequel on se trouve. Et puis, si on veut les manger, être sûr de ce que l'on cueille. Parce qu'on dit toutes les plantes se mangent, mais certaines seulement une fois.
Donc, vous connaissez, Mylène.
Voilà. Oui, comme les champignons.
L'adage.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Muriel. Dans la suite des jardinières, on va s'arrêter sur quatre plantes sauvages que l'on peut trouver facilement en ce moment. Restez avec nous.
7h, 8h, les jardinières.
Émission spéciale plantes sauvages ce matin chez les jardinières. Et notre guide du jour, c'est Muriel Jeanneras, permacultrice à Montenolles. Commençons notre tour d'horizon avec une plante que certains connaissent bien, que d'autres arrachent sans hésiter, l'égopode. Alors Muriel, pour se faire une idée, à quoi elle ressemble cette plante?
Alors l'égopode, ou herbogoutteux... Égopode podagrère. Alors normalement, on devrait toujours donner le nom latin pour être sûr de la plante qu'on est en train de parler. Donc là, c'est Égopodium podagraria. Ça, c'est si on donne le nom latin. Alors, elle ressemble à une feuille de 3 folioles et puis, on va dire 3 folioles de 3 folioles. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que les 3 folioles du haut voilà, sont très clairement découpées et puis les deux parties du bas, qui sont aussi 3 folioles, mais ne sont souvent pas découpées en 3 folioles. C'est 2 folioles, et puis il y a un autre qui a l'air de se découper, mais qui n'est pas tout à fait terminé. Et puis, ce qui caractérise aussi là, c'est que le pétiole de la feuille, quand on le prend en coupe, il va avoir une forme de gouttière, mais c'est comme un triangle sur le fond et un U. Donc, c'est en coupe, ça donne un triangle, et à l'intérieur, il y a un U. Et puis, c'est une plante qu'on va trouver... Alors, souvent dans les vieux jardins, parce qu'elle a été peut-être introduite à un moment donné où on avait un peu faim. Et puis, elle pousse vraiment, elle est envahissante. Hein. Elle vient de la forêt à la base. C'est plutôt une plante qu'on trouve au bord des chemins de forêt. Elle a des racines blanches qui sont qui circulent très facilement et qui passent assez loin. Donc, quand elle commence à envahir le jardin, il faut un peu la surveiller parce qu'elle a vite fait d'aller plus loin. Et puis, elle est très aromatique. Elle a un peu un goût d'agrumes. Quand on froisse la tige, le pétiole, on sent un petit peu comme quand on pèle une orange. Et puis, c'est une ombellifère. Donc, quand elle commence à mettre des fleurs, c'est des fleurs blanches en forme de parapluie. Voilà, pour les gopodes, comme ça.
Et puis, vous en avez parlé brièvement, hein, où on peut la trouver. On la trouve un peu partout, si on sort de chez nous, dans le jardin, facilement.
Alors, dans le jardin, on n'aime pas trop la voir dans le jardin, parce que justement, elle est trop envahissante. Quand les gens me demandent, mais est-ce que je peux la mettre dans mon jardin? Moi, je déconseille. Allez plutôt la cueillir en forêt. Moi, j'en ai dans mon jardin, mais j'essaie de la garder dans une partie et pas qu'elle envahisse le tout.
Et Muriel, est-ce qu'on peut confondre l'égopode avec une autre plante qui ne serait pas bonne?
Alors, dans ces ombellifères, dans ces apiacées, là, oui. Alors après, pour reconnaître une plante, ce qu'il faudrait, c'est avoir plusieurs critères. Il peut y avoir l'odeur, il y a la vue, il y a le milieu. Donc, à partir du moment où on a quelques critères comme ça, où on est sûr, en principe, on ne mélange pas. Alors... Voilà, dans ces ombellifères, il y a les ciguës, hein, bien sûr, mais les feuilles sont découpées tout à fait autrement. Donc ça, c'est en principe... Voilà, il faut avoir ces 2-3 critères pour être sûr.
Et en quoi les vertus de l'égopode la rendent-elles intéressantes?
Alors, les vertus, c'est comme elle, porte le nom de herbe aux gouttes. Ça veut dire qu'elle va soigner la goutte. Et la goutte, parce que dans son deuxième nom, Egopod podagraire, podagra, ça veut dire goutte. Donc, elle soigne la goutte. Donc, elle enlève l'acide urique qui se trouve dans les articulations. Donc, elle va soigner un peu tout ce qui est un peu rhumatismal, des choses comme ça. Et puis, elle contient beaucoup de vitamine C. Elle en contient 4 fois plus que le citron. Donc, alors, on peut ne pas la cuire, hein, c'est le mieux. Et puis, elle a aussi de la provitamine A.
On vous avait parlé avant qu'elle avait un petit goût d'agrumes. Du coup, on l'utilise plutôt en cuisine, comme si c'était une orange ou une mandarine ?
Alors non, en cuisine, on l'utilise comme les épinards. Voilà. On va dire que c'est un légume, légume-feuille. Donc, les jeunes feuilles d'égopode qui sont un peu vertes, presque transparentes, vertes toutes claires, brillantes, translucides presque, et un peu fermées. Celles-là, on les prend pour la salade. Moi, je les trouve vraiment bonnes comme ça en salade, soit coupées assez fines, soit entières. Et puis, quand elles sont un peu plus grandes, alors on peut prendre les feuilles et là, ben, imaginez que vous avez des épinards et puis que vous faites quelque chose avec. Donc, ça peut être un pesto, ça peut être en soupe, en soufflé, en quiche. Et puis, moi, comme je les préfère, là, les égopodes, c'est haché finement. Quand ils sont un peu plus vieux, on peut les cuire déjà une première eau. Et puis, sinon, on peut les hacher finement et les mettre dans un gratin de pommes de terre, donc une couche de pommes de terre. Une couche d'égopode, une couche de pommes de terre, un peu de crème, et puis vous assaisonnez un peu ça, et c'est absolument délicieux.
Merci beaucoup, Muriel, pour cette première découverte. On se retrouve dans quelques minutes. Vous nous parlerez de la reine des prés, une plante connue pour son parfum.
Les jardinières.
Les jardinières ont quitté le potager ce matin pour partir à la découverte de plantes sauvages. Nous sommes en compagnie de Muriel Jeannerat, permacultrice et animatrice d'atelier de découverte des plantes sauvages à Montenol. Ce matin, on apprend nous aussi à nous servir de ce que la nature nous met à disposition tout autour de nous.
En première partie d'émission, nous avons découvert l'égopode. Parlons maintenant d'une plante plus connue pour son parfum, la reine des prés. Muriel, est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette reine ? Est-ce qu'elle porte une couronne ?
Certainement. Alors, je vais commencer par décrire les feuilles. Les feuilles, c'est donc un long foliole. Sur les feuilles, on a un peu, ça se découpe de cette façon. On a deux feuilles qui sont côte à côte, qui sont en face à face sur la tige. Et puis tout en haut, on a une feuille qui a trilobée, qui se découpe en 3 parties et qui ressemble assez à une feuille de framboise. Donc, c'est denté autour. Et puis, elle est un peu froissée comme la feuille de framboise. Et puis, ce qui est particulier, c'est que sur cette tige qui tient toutes ces feuilles, on a entre les doubles feuilles qui sont de chaque côté des bébés feuilles. Alors, c'est plus facile si on pouvait montrer, mais voilà, là, j'explique. Donc, il y a des toutes petites feuilles qui sont disposées sur cette tige qui est toujours un peu rougeâtre. Et puis, cette feuille, si on prend le pétiole, et puis qu'on la froisse, on va vraiment avoir une odeur assez caractéristique de cette plante. Et puis des fois, dans les ateliers, je demande aux personnes, et puis je leur demande de fermer les yeux, de sentir l'odeur qui émane de cette tige. Et souvent, ça sent la pharmacie. Donc voilà, c'est une grande médicinale, cette reine des prés. Et puis, on dit que elle n'est pas malade. Elle pousse dans les endroits humides. Donc, elle a les pieds dans l'eau. Elle n'est pas malade. Donc, c'est aussi une façon de savoir à quoi elle sert. Et puis, son vrai nom, son nom latin, c'est Filipendula ulmaria. C'est une rosacée. Donc, c'est la famille des églantiers, des pommiers, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que je décris cette plante. Puis ensuite, elle va avoir une fleur. C'est une grappe de fleurs. C'est une grappe de fleurs qui se trouve assez haut. Donc, la tige va monter assez haute. Et on aura une petite grappe de fleurs blanc cassé, comme ça. Et puis, on va les trouver surtout au bord des rivières, vraiment où c'est humide.
Merci Muriel, vous l'avez dit, ce n'est pas forcément facile de décrire une plante. Le mieux, c'est d'avoir un visuel, des photos. Et justement, vous avez pris plein de photos de ces plantes sauvages dont on va discuter ce matin. Et on vous les mettra à disposition, vous qui nous écoutez sur notre site internet en cours de matinée. Et justement, cette reine des prés, comme toutes les plantes sauvages, elles ont des propriétés particulières. Est-ce que c'est le cas pour celle-ci, par exemple, sur le plan médicinal ?
Oui, alors c'est vraiment le plan sur celle-ci parce qu'elle a été très étudiée. D'ailleurs, elle a dû changer de nom, hein, parce qu'avant, elle s'appelait une spirée. D'ailleurs, quand on voit ces petites graines, on voit très bien que sur les graines, il y a des spirales. Donc elle s'appelait la spirée. Et puis, eh bien, cette plante contient du salicylate de méthyle. Donc, c'est de l'acide salicylique. Et puis, on trouve ça dans l'aspirine. Donc, quand on a fait l'aspirine, eh ben, on a changé le nom à cette plante qui s'appelait l'aspirée et on l'a appelée la reine des prés. Heureusement, on lui a mis un joli nom. Donc voilà, ses propriétés, ben, elle va avoir les mêmes propriétés que l'aspirine, anti-inflammatoire, anti-rhumatismale. Elle enlève aussi l'acidité. Donc, c'est quelque chose qu'on va prendre quand on a un état grippal. Et puis, les fleurs sont très parfumées. Donc là, on va utiliser ces fleurs qu'on peut cueillir et sécher ou utiliser comme ça. Et puis, on va surtout utiliser ce parfum qui est un parfum d'amande amère. Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est ce parfum-là. Et puis, on va parfumer des desserts, des boissons, du vin, des sirops, même du riz. Donc, c'est vraiment un peu comme ça qu'on peut l'utiliser. Et bien sûr, en tisane. Moi, je l'aime beaucoup en tisane. Même les feuilles que j'utilise en tisane, j'en ai mis dans mon jardin de cette reine des prés parce que j'ai un petit coin où c'est assez humide. Et puis, en fait, elle se plaît bien là. Et puis, dès que les feuilles sortent, moi, je mets les feuilles dans mes tisanes.
Une plante qu'on peut utiliser dans beaucoup de préparations. Muriel, oui. Est-ce qu'il y a des précautions à connaître avant de l'accueillir ou de l'utiliser?
Alors, par exemple, les personnes qui sont allergiques à l'aspirine, je leur déconseille de prendre ça. Parce qu'il y a cette même substance qui peut être allergisante pour les personnes qui ne supportent pas l'aspirine.
Merci Muriel. On poursuit ces découvertes de plantes sauvages dans quelques minutes avec le plantain.
Les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, on parle de plantes sauvages qui méritent d'être connues en compagnie de Muriel Jeannerat, permacultrice et animatrice d'ateliers de découverte de plantes sauvages dans le Jura.
Depuis 7 heures, on découvre des plantes qu'on trouve facilement dans nos jardins et qu'on considère parfois comme des mauvaises herbes. Après l'égopode et la reine des prés, Muriel, vous avez choisi de nous parler du plantain. Comment on peut le reconnaître, ce fameux plantain?
Alors, je pense que ça, c'est une des plantes que quasiment tout le monde connaît parce qu'on la voit tout le temps depuis tout petit. Elle est très particulière au niveau de ses feuilles. Donc, on en a plusieurs sortes. C'est des plantaginacées. Il y a le plantain majeur, plantago major. Il y a le plantain lanceolata, donc lancéolé. Et puis, media, donc voilà, celui qui est intermédiaire. On en a surtout trois sortes chez nous. On en a surtout ces trois sortes-là. Ceux qu'on voit le plus, les deux sortes qu'on voit le plus, c'est le plantain majeur et le plantain lanceolé. Elle s'appelle aussi l'herbe aux 5 ou 7 coutures parce que justement ces feuilles, donc elles sont d'un seul tenant. Ça fait comme une, pour le plantain lancéolé, c'est comme une langue, donc c'est assez allongé. Et puis elles ont des nervures vraiment parallèles, donc elles partent du bas jusque vers le haut. Elles sont parallèles, bon, avec la petite courbure pour que ça se resserre un peu sur le bas. Et puis, quand on les retourne, on voit vraiment ces nervures. Et là, on dirait des coutures. Le plantain majeur a la même chose, mais les feuilles sont plus rondes. Et puis, je pense même tous les enfants connaissent ça. Et puis après, les fleurs, c'est une tige plus ou moins longue. Ça dépend quel plantain on a. Pour le plantain lancéolé, la tige qui supporte la fleur est très longue. Puis ensuite, on a un petit épi qui est noir. Et celui-là, on peut le manger. Il a un goût délicieux de champignon. Donc, toute la plante sent un peu le champignon. Hein. Et puis, on peut aussi manger les jeunes pousses, comme ça, les jeunes boutons floraux du plantain majeur. Et celles-là, elles vont être plus longues et plus vertes.
On en entend souvent parler comme d'une plante médicinale, hein, de ce plantain. Alors, quelles sont ses vertus?
Oui, alors le plantain, ce qu'il a comme vertu, de nouveau, hein, comme les autres plantes, il a de la vitamine A, de la vitamine C. Je crois que ça, c'est quelque chose que vraiment on trouve souvent chez les plantes, dans les plantes sauvages. Il y a du mucilage, et puis il y a des tanins, il y a des minéraux, il y a du zinc, entre autres. Et puis... en fait, c'est une plante qui va aider quand on se pique, quand on a des petites coupures, les piqûres d'ortie, les piqûres d'insectes, ça va vraiment être très aidant si on a du plantain juste à côté. Donc on prend une feuille, on la froisse, mais ça veut dire qu'on fait sortir le jus. Hein, donc vraiment, il faut que le jus sorte. On peut même mettre dans la bouche pour un tout petit peu écraser cette feuille comme il faut et avoir du jus vert. Et ensuite, on peut le mettre en cataplasme sur la piqûre d'ortie ou d'insecte. Et puis, ensuite, cette plante, on peut aussi faire des sirops pour la toux parce qu'elle est également bonne pour la toux. On peut faire des sirops à froid ou à chaud. On peut faire des teintures mères, donc des alcoolatures. Et c'est aussi un bon légume. Donc, les jeunes feuilles en salade et puis les feuilles plus grandes avec un risotto, par exemple, pour faire un risotto qui a un peu un goût de champignon. Et les petits boutons floraux, quand ils sont tout bien fermés, tout noirs, un peu comme des câpres avec une sauce. Donc, c'est aussi un légume.
Donc, c'est une plante qui fait tout. Elle répare les bobos, on peut la manger. C'est vraiment le plantain, la plante parfaite. Merci Muriel, il nous reste encore une plante à découvrir. Ce matin, la petite pimprenelle. Alors moi déjà, j'adore le nom. Je me réjouis d'en savoir un petit peu plus dans la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières ont quitté les plates-bandes du potager ce matin pour s'intéresser aux plantes sauvages, celles qui ne demandent pas la permission pour pousser. Muriel Jeanneret, vous êtes permacultrice dans le Jura. Vous avez sélectionné quelques plantes à nous présenter. Et puis pour cette dernière sélection, vous avez choisi la petite pimprenelle. Muriel, à quoi ressemble cette plante ?
Là aussi, c'est une plante. Je pense qu'en tout cas, à partir du moment où on la montre, les gens la reconnaissent. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les talus qui sont bien exposés au soleil. Donc, c'est une petite plante qui va se plaire dans les prairies sèches, donc les endroits plutôt secs et ensoleillés. Elle aime bien l'eau quand même parce que comme ça, elle se développe. Elle fait des bouquets comme ça. Et puis, ces feuilles, c'est des feuilles composées, donc de plusieurs folioles qui sont disposées sur une tige. Et puis, tout en haut, on a une petite feuille qui est esselée. Elles sont dentées. Et puis, quand on les retourne, à l'arrière, elles sont légèrement grises. Enfin, pas grises, mais le vert est un peu grisé, comme ça. Et puis, sur l'avant, c'est un beau vert, un peu plus foncé. Et puis, peut-être je vais juste rajouter ça encore. C'est une rosacée, elle s'appelle Sanguisorba minor. Donc, ça parle de sang, donc ça a un rapport avec le sang. Et c'est l'ancêtre du persil.
Comme le persil. Merci Muriel, les plantes sauvages ont beaucoup de choses à nous offrir. Quels sont ses avantages ou les bienfaits de la petite pimprenelle ?
Alors, comme le persil, elle est pleine de vitamine C et elle a un super goût de concombre. Alors, il faut prendre les jeunes feuilles, puis là, on peut les utiliser telles quelles. Si les feuilles sont un peu plus âgées, on va juste enlever la tige, garder que les feuilles. Donc, c'est facile à déculoter, on va dire. Et puis, ensuite, on peut l'utiliser un peu comme on utiliserait du persil, puisque c'est une plante aromatique. Ça veut dire on peut faire un petit beurre avec un beurre à la petite pimprenelle. On peut les mettre dans la salade. On peut faire une petite sauce, petite sauce à l'échalote avec un peu de la farine, du vin blanc. Ensuite, on va mettre nos feuilles de petite pimprenelle, on va mixer tout ça. Et puis, ça va nous faire une petite sauce qui a très bon goût et qui va très bien avec le poisson ou les asperges. Donc, voilà, c'est un petit condiment. Un peu. Si on n'a pas de persil, c'est un truc qui peut être sympa.
Merci Muriel pour toutes ces explications sur ces plantes sauvages. Puis peut-être un rappel quand même pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de tenter l'expérience. Ce n'est pas parce que c'est des plantes, qu'elles sont vertes et belles, qu'on peut toutes les manger sans danger.
Non, c'est quand même mieux de savoir ce qu'on a pris, être sûr de ce qu'on mange. Et puis, si on n'est pas sûr, on consomme pas, quoi.
Merci beaucoup, Muriel, pour toutes les bonnes idées que vous nous avez partagées ce matin. Nous avons appris à reconnaître l'égopode, le plantain, la reine des prés et la petite pimprenelle. Vous retrouverez l'émission au complet sur notre site en cours de matinée.
Et Muriel, quand même, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez une plante sauvage coup de cœur du moment ?
Hier, je suis allée me balader un peu et j'ai vu que la réponse en épi.
Ah, enfin, la voici.
La voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui en sont friands. Donc, elle est là. Alors, vous pouvez aller l'accueillir.
Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes permacultrice et que vous proposez des ateliers de découverte des plantes sauvages à Montenolles. Très bon week-end à vous et à bientôt chez les jardinières.
Merci de m'avoir accueillie et bon week-end à tout le monde. Au revoir.
Merci Muriel. Rendez-vous samedi prochain dès 7h pour une nouvelle émission des jardinières. Cette fois-ci, c'est en forêt que nous partirons en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons. Préparez vos paniers. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.